Bonsoir, il faudra compter sur 6 nouvelles tours à Paris à l'horizon 2030, puisque le Conseil de Paris a voté de justesse l'aménagement donc de la ZAC Bercy-Charenton. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de controverses, puisque c'est vrai que depuis 10 ans, on en construit de plus en plus des tours, alors à la Défense bien sûr, mais aussi à Paris intramuros, et puis dans les autres grandes villes de France. Alors est-ce qu'on aime les tours? Est-ce qu'on aime travailler dans une tour? Est-ce que les tours ont un avenir en ville? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les tours, justement, voilà, est-ce que vous allez vous habituer à en voir de plus en plus, peut-être comme à Londres, par exemple. On va en parler avec les meilleurs experts, les meilleurs acteurs, les meilleurs spécialistes nés. Éric Mazoyer, le directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Chaque fois qu'on parle d'immobilier, notamment, qui voici? Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Martin Piau nous accompagne également, le directeur général de l'agence de design et de marque W, spécialisé lui-même dans tout ce qui est tertiaire. Et Philippe Zitkovic, co-président de Woodeum. Vous connaissez Woodeum, qui fabrique des tours, pas, et des immeubles de bureaux, des habitations. Bois, justement, vous savez, c'est la société qu'il co-préside avec Guillaume Poitrine. Alors, Henri Buzy-Cazot, ce qui s'est passé dans la ZAC Bercy-Charenton, justement, c'est énorme, voilà, c'est la dernière grosse emprise foncière de Paris, 80 hectares aux confins du périphérique de l'autoroute A4, des réseaux ferrés de la gare de Lyon, du boulevard des Maréchaux. Il y aura 6 tours à horizon 2030 qui vont être érigées, dont un gratte-ciel de 180 mètres, pour y mettre des habitants. 4000, pour y mettre des bureaux, des commerces, des hôtels, un jardin de 2 hectares, presque 13 000 emplois. C'est un vieux projet qui est contesté. Les origines remontent à 2008. Oui, ça fait 10 ans qu'on en parle de cette histoire.
Oui, alors, c'est une victoire. C'est le fruit d'une évolution des esprits. On se rappelle que la Tour Triangle, notre grand projet, a été controversé, a fait l'objet de débats ici même. Et en fait, la contestation contre les tours, ces immeubles qui viennent rompre les lignes habituelles, elle n'est pas d'hier. La Tour Eiffel avait soulevé, les mêmes débats, les mêmes passions. Il me semble qu'il y a beaucoup de pragmatisme dans ce projet, qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence et une conception de la ville, de la cité qui est saine, avec un mélange des fonctions. Un mélange des fonctions, une mixité des fonctions. Les tours permettent ce mélange, très clairement, avec aussi une esthétique. Bien sûr qu'il y a de l'audace, mais faut-il que les villes soient des musées, qu'elles ne changent pas, qu'elles soient figées? Certainement pas.
Éric Mazoyer, Bouygues Immobilier, c'est novateur comme projet? La ZAC Bercy-Charenton, puis on élargira évidemment, on ne va pas faire que...
Alors moi je pense que ce qui est novateur d'abord, c'est que les tours, ça répond à un besoin qui est le même besoin que celui de la ville, c'est d'organiser une très forte mixité et disons dans des actifs qui sont très performants sur le plan énergétique et sur le plan écologique.
Quand on parle de mixité, voilà, c'est le mélange entre mixité, par exemple, commerce, hôtel,
on
bureau,
le voit, ceux qui vont à la Défense, c'est pas très sympa d'avoir des tours le soir à 8h qui s'éteignent.
C'est fini.
Et qui devient un quartier vide.
C'est mort.
L'avenir des tours, c'est quand même d'être très très mixte, et d'être multifonction.
D'avoir une emprise dans la ville, de vivre la ville.
Absolument. Hein. Et notamment, on l'a vu, il y a une perception des tours en France qui a été un petit peu mal vue par la charte d'Athènes avec la ville couverte, des tours qui sont plutôt au premier étage avec des accès et donc qui sont pas de plein pied. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les tours de demain, c'est vraiment des tours très mixtes, des tours très écologiques. Et puis qui répondent bien entendu à un besoin d'hyperdensification des cœurs de ville, parce que on a quand même besoin de générer des droits à construire pour répondre au problème du logement en France, pour répondre au problème de l'évolution des façons de travailler en France et au problème à la façon de vivre ensemble. Donc nous, on se réjouit de ce type de projet. Je pense que c'est une évolution excellente pour l'avenir de notre profession.
Toujours sur ce projet, un mot chacun. Donc Philippe Zitkovic, Woodeum, Martin Piau, W.
Moi, ce qui me frappe, c'est que Paris, à l'inverse des grandes capitales mondiales, à l'inverse des grandes villes européennes, Paris a très peu de tours. Et a eu très peu de tours, puisque le phénomène des tours s'est passé dans les années 70, avec Montparnasse,
Beaugrenelle.
Avec Beaugrenelle, mmh. avec les tours du 13e.
Et, oui,
et puis, tout s'est arrêté. Ouais, ouais. Tout s'est arrêté et avec...
Pourquoi ça s'est arrêté à l'époque ?
Ça s'est arrêté parce que il y a eu des critiques qui ont été faites sur les tours, fortes, sur le fait que c'était inhumain, ce que disait Eric tout à l'heure. Et donc, alors que dans toutes les autres grandes villes, on continue à construire des tours, on n'a plus construit de tours à Paris, avec des limites de hauteur qui étaient donc très limitées par rapport aux grandes hauteurs. Et c'est vraiment la nouvelle municipalité installée depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années, la deuxième mandature de la Noé et ensuite Anne Hidalgo, qui a relancé les tours avec un modèle intéressant qui est le modèle viennois. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle viennois en Autriche ? C'est arriver à combiner un cœur historique qui reste historique avec une architecture ancienne et placer des tours à la périphérie, la première couronne périphérique, et trouver un équilibre entre le modernisme et le 21e siècle des tours, et en même temps arriver à gérer et à garder l'architecture,
Martin Piau.
C'est une excellente nouvelle, évidemment. D'abord parce que plusieurs projets ont été adoptés récemment. Triangle, le projet qu'on vient d'évoquer de Bercy-Charenton.
C'est vrai, et ça prouve c'est vrai, j'ai l'impression que ça s'accélère. Les futurs tours du haut, Jean Nouvel, Rive-Gauche et Amasséna.
Tout ça, c'est des projets qui...
Triangle, Porte de Versailles, donc là, voilà, très bien. First, Sister, Carpe Diem, voilà, c'est la Défense. Les tours Hermitage, si un jour elles voient le jour à la Défense, rien n'est fait. Bordeaux également. On a l'impression que depuis 10 ans, ça s'accélère.
Mais oui, absolument. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, ça prouve la vitalité du pays, d'une ville, d'une économie. Et on voit à quel point c'est important aujourd'hui. Londres ou d'autres villes, d'autres capitales, ont su se régénérer grâce à des grands architectes comme Foster, comme Nouvel, comme d'autres. C'est un élément symbolique, en fait, une tour aujourd'hui. C'est un élément symbolique d'une bonne santé économique quand on est dans un quartier d'affaires, d'une bonne santé tout court, parce que c'est le héros au sens héraldique du terme de ce que doit être le pays et de ce qu'il doit porter comme valeur.
Martin Piau, vous pensez que c'est un vecteur d'attractivité pour une capitale?
Ouais. Et du reste, à Dubaï, par exemple, la tour est le monument le plus visité. La tour Punjab, c'est le monument le plus visité. Donc c'est un facteur attractif. Il y a pas très longtemps, j'étais à Chicago et il existait un jeu dans un des musées dans lesquels j'étais où on reconnaissait les villes uniquement à leur skyline. Et la seule ville, finalement, la seule grande capitale qu'on ne reconnaît Paris. Qu'à des monuments historiques, c'est Paris, avec la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe.
Notre-Dame, etc.
Alors que si vous regardez New York, Chicago, Londres, en fait, ce sont des monuments récents, des buildings récents, qui portent les valeurs de nouveauté de ces villes.
Le cornichon à Londres, par exemple, ce qui a succédé au World Trade Center aussi.
Philippe parlait du modèle viennois, c'est vrai que Londres, de ce point de vue-là, a su régénérer son centre-ville en conservant son patrimoine, parce que peut-être que chez nous, dans nos veines coule encore un peu trop de sang d'Haussmann. On a quand même une pression très très forte culturelle en France de préservation du patrimoine. Mais quand on se balade à Londres, on voit qu'il y a pas de, il y a pas, y a, c'est pas vraiment antinomique d'être capable de générer la Tour des Loges ou
mais
même
comment
le Shard.
Comment s'équilibrent ces nouvelles tours qui sont créées, par exemple, prenons l'exemple de Londres.
Philippe Zicoli.
En réalité, on se rend compte que ces nouvelles tours s'équilibrent par de la constructibilité significative supplémentaire. Donc la ville se reconstruit sur la ville, et pour qu'il y ait un équilibre financier qui soit suffisamment opérant, il faut donner des constructibilités supplémentaires.
Mais le plus bel exemple
avec
Philippe, c'est le plan de relance de la Défense, auquel on avait participé il y a quelques années. Absolument. Où pour régénérer et offrir sur un parc international des tours aux standards internationaux, le seul moyen, c'était d'accepter la démolition des tours qui sont obsolètes par reconstruction avec un bénéfice de densité. C'est le seul moyen de générer des actifs qui peuvent répondre aux attentes de sociétés internationales anglo-saxonnes ou...
Qui voudraient éventuellement revenir à Paris. Absolument. Si jamais le Brexit se confirmait. Oui, Henri Buzicato.
Je me demandais aussi, en reprenant l'historique que faisait Philippe, pourquoi pendant tant d'années, on n'a plus fait de tours. Bon, qui décide de faire ou pas des tours dans une ville? Ce sont des acteurs professionnels, des promoteurs, il faut derrière aussi des financiers qui suivent, il faut un équilibre, on l'a dit, et puis des élus. Et les élus, ils sont attentifs à ce que l'opinion veut ou ne veut pas. Alors le rejet des tours, il tenait à quoi? Il tenait à des choses qu'on a corrigées, qu'on a soignées. On fait de très belles tours. Les plus grands architectes considèrent cet objet-là comme porteur de tout leur savoir-faire, de toute leur intelligence. Ça n'a pas toujours été le cas. Une tour était quelque chose de vilain. Bon, faut le dire. Il y avait les tours et les barres. Deuxièmement, la tour, on l'associait, l'inconscient collectif l'associait aussi à des problèmes, à des risques d'insécurité. C'était mettre beaucoup de gens, avec notamment des périodes où il n'y avait personne, lorsque c'était des tours exclusivement tertiaires, on n'avait pas la mixité, et à l'arrivée, la crainte que ce soit des ghettos, que ce soit très vite des lieux d'insécurité. Voilà, donc on a corrigé tout ça, et puis aussi, je parlais tout à l'heure de réalisme, et Eric parlait du besoin de loger davantage de personnes. L'opinion évolue parce que elle voulait une chose et son contraire. Elle veut qu'il y ait plus de logements dans une ville comme Paris ou comme Bordeaux, peu importe. Et il n'y a pas 36 solutions, c'est bien la densité et vers le haut parce que, pour le reste, le foncier est relativement rare dans les villes, c'est clair.
Ouais, Martin Piau, W.
Dans une étude réalisée par vos confrères de France Info il y a 6 mois, 70% des Français déclaraient ne pas vouloir de tour.
Ah oui.
Et pour ajouter au point que vous venez d'indiquer, il y a un élément, alors je suis pas spécialiste, mais un élément structurel qui est intéressant, c'est que Beaugrenelle ou La Défense, par exemple, ont été construits sur un système de dalles, hein, avec une séparation des flux voitures, des flux piétons et des flux autres. Et en fait, ça amène des endroits totalement inhumains. C'est l'erreur que n'ont pas faite les Américains ou d'autres pays, en fait, en développant des tours dans des espaces où il y a des pieds d'immeubles, il y a des commerces, il y a de la vie, il y a de l'accessibilité, il y a de la mixité, comme on l'a dit juste précédemment, et c'est ça qui change tout. On a commis une erreur de ce point de vue, et c'est pour ça que les Français vont rentrer à nouveau en amour avec les buildings, parce que les nouveaux buildings qui arrivent répondent à ces critères.
On y met dedans ce que vous y mettez tous dedans, mais c'est vrai que ça suscite en effet beaucoup de passion, alors parfois de la mauvaise foi politique, hein. J'ai cité à propos de la ZAC Bercy-Charenton, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui disait « C'est une nouvelle preuve de notre capacité à innover pour l'attractivité de Paris et l'amélioration du cadre de vie des Parisiens ». Voilà l'attractivité, ce que vous disiez, Martin Piau. Alors, du côté des écologistes, on dénonce un projet de surdensification et de bétonisation qui ne respecte pas le plan climat de la ville. Et puis à droite, chez les Républicains de Paris, on parle d'un projet anachronique et contraire aux exigences environnementales. Bon, alors, Éric Mazoyer, Bouygues Immobilier.
Sur ce débat, il y a quand même une remarque qui est assez intéressante. Je lisais les déclarations du ministre, là, Nicolas Hulot, sur le fait qu'il fallait cesser d'étanchéiser de façon anarchique des terrains. Ben, si on veut pas de périurbanisation, si on veut pas que la ville cavale en bouffant
de la ville récupère,
il faut que la ville, pour répondre aux besoins de l'hyperdensification, s'élève en hauteur et donne des possibilités. Donc, quelquefois, il y a une philosophie écologique qui est un peu antinomique, quoi.
En réalité, c'est exactement le contraire. La tour permet de réduire la surface au sol en s'élevant davantage en hauteur. Et alors, la seconde idée qui est sur les phénomènes écologiques et de bas carbone, le fait de concentrer davantage de personnes sur le même lieu, ça évite l'éloignement entre le travail et le logement, la multiplication des transports en voiture, etc. Donc il faut mesurer un peu les propos là-dessus.
Et ça, par exemple, quand on conçoit ce type de tour mix, alors quand on parle de mixité, hein, pardon, mais c'est vraiment, on parle de mélange entre les bureaux, les commerces, les logements, hein, bien entendu. Est-ce que ça, c'est prévu justement qu'on fasse en sorte que les collaborateurs d'une entreprise puissent aller habiter éventuellement au pied de la tour? Bon, alors je sais pas si les gens aiment se loger au pied de leur bureau, parce que bon, faut à un moment
expériences qu'on a, c'est pas forcément ceux qui habitent dans les derniers étages qui travaillent dans les premiers étages. Hein.
Bon, d'accord.
Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies pour fabriquer des objets très très performants sur le plan environnemental, en respectant cette mixité, avec des planchers de transfert pour faire fonctionner cette mixité à l'intérieur des tours. Donc sur le plan technique, il n'y a pas d'incompatibilité. Sur le plan de l'énergie, on sait maintenant faire des objets qui s'approchent presque de l'énergie positive. C'est un peu plus compliqué avec des objets de grande hauteur, parce que forcément, faut monter un peu d'eau en haut. Il y a quand même un peu de grande hauteur.
C'est-à-dire que finalement, une tour va s'auto-alimenter.
Il peut faire de l'auto-consommation de sa propre production. Hein, donc,
Et c'est vrai. Tiens, racontez-nous, Éric Mazoyer, vous qui construisez donc des tours, hein, donc au nom de Bouygues Immobilier, dont vous êtes le directeur général délégué. C'est vrai que selon la géométrie de la tour, hein, selon les matériaux utilisés pour la façade, on va pouvoir capter plus ou moins de lumière, plus ou moins d'énergie, faire une ventilation naturelle. C'est formidable, hein, en ce moment. Ça s'améliore, j'allais dire, de jour en jour, tous ces procédés.
Alors, on a une petite contrainte dans la tour, évidemment, c'est que la surface disponible pour étaler du panneau photovoltaïque dans de bonnes conditions, elle est limitée, puisque le principe même d'une tour, comme le disait Philippe, c'est de réduire son emprise au sol. Donc forcément, en haut, on n'a qu'une faible emprise.
Petit toit, voilà.
Mais à l'inverse, on se rend compte qu'on arrive à mutualiser beaucoup de choses dans une tour. Et si on est multifonctionnel, on arrive à une mutualisation de l'énergie. Ben, c'est simple, le week-end, l'énergie produite, elle est dans un immeuble de bureau qui est 100% bureau, elle n'est pas consommable puisque personne ne travaille. Quand vous êtes dans de la mixité, par essence, vous pouvez mutualiser cette consommation ou cette production d'énergie.
Prenons un exemple, parce que parmi toutes vos réalisations, j'ai regardé les réalisations de ces dernières années chez Bouygues Immobilier, 2015, je passe quasiment tous les soirs devant, hein, dans le 13e arrondissement, il y a Home, la plus haute tour d'habitation à Paris depuis les années 70. Et c'est vrai que, je ne suis pas rentré dedans, hein, parce que je suis sur le périphérique, je la vois de loin, assez audacieuse dans la construction.
Géométrie.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça fonctionne une tour en 2018, hein?
Alors, comment ça fonctionne? Alors là, c'est une tour qui est mono-utilisation, puisqu'elle est essentiellement
habitation.
Une tour d'habitation.
Oui, hein,
donc elle n'est pas en mixité. Donc ça fonctionne de façon assez classique. Alors, il y a quand même quelques bénéfices à ça quand même. C'est d'abord, je pense qu'on vit quand vous regardez aujourd'hui, quand vous densifiez, vous avez un meilleur amortissement, par exemple, d'une conciergerie. Vous pouvez offrir des services qui sont mutualisés pour les occupants. Donc je pense que c'est beaucoup de bénéfices pour les occupants. C'est pas désagréable au niveau des vues, hein, puisque a priori plus vous élevez, plus vous offrez des vues panoramiques et moins de vis-à-vis aux habitants de ces tours. Et en tout cas, nous, ce qu'on a constaté sur Home, qui était une grande réussite commerciale, c'est un engouement assez fort des utilisateurs. Et les enquêtes qu'on fait de satisfaction post-livraison, hein, un an ou deux ans après, sont plutôt très positives. Alors, quand on me dit oui, 70% des Français n'aiment pas, je pense qu'il y a une image un peu...
En même temps, il y a tour et tour. C'est vrai, quand on parle de tour et tour, on construit jusque quelle hauteur, par exemple, sur une ville comme Paris. J'imagine que on peut pas faire la Burj Khalifa comme à Dubaï, en plein milieu de l'île de la Cité, bien entendu. Hein. Quelles sont les réglementations
Un peu un standard politique qui est de pas dépasser la hauteur de la Tour Eiffel.
Exactement. C'est bien, oui.
Ensuite, on a une contrainte technique qui est très forte, c'est qu'on a des réglementations IGH très particulières en France. IGH, c'est-à-dire immeuble de grande hauteur.
Bien. Qui ne sont donc, pas les mêmes, d'ailleurs, en logement
pour les bureaux et pour
puisque
les...
en bureau, on monte à 31 mètres.
Et donc,
au-delà, on est en IGH, alors qu'en logement, on peut monter à 57 mètres. 56, 57 mètres, ce qui est un petit peu différent. D'ailleurs, la tour que nous faisons à Bordeaux, qui est en bois, elle fait 17 étages.
Oui.
Elle fait 17 étages et elle fait 57 mètres.
Oui, je veux dire, voilà, une 50
mètres. Mais nos réglementations en France nous limitent d'une façon générale à 200 mètres, puisque passé 200 mètres, on n'est plus en IGH, on a TIGH. Et là, ça veut dire que dans un IGH, on est obligé d'avoir un PC pompier 24-24, 35 heures, donc c'est assez lourd en termes de charge. Et si vous dépassez 200, faut vite monter au-delà des 300-400 mètres pour amortir un deuxième PC pompier qui est positionné à 200 mètres d'altitude. Alors ça, c'est très particulier à la France, qu'on ne retrouve pas à Dubaï ou qu'on ne retrouve pas aux États-Unis.
Tout de suite, c'est Eric Mazoyer qui nous racontait comment est-ce que maintenant on construit des immeubles en fonction donc d'un certain nombre de matériaux, d'orientation, etc. On arrive à générer de l'énergie positive. Parlez-nous des tours en bois, des immeubles en bois que vous construisez, vous, Philippe Zitkovic, co-président d'Oudéum, donc avec Guillaume Poitrinal. On peut ériger, donc, c'est facile d'ériger une tour en bois, c'est facile de la faire fonctionner.
En CLT, on peut monter effectivement à 10 ans. Lamellés croisés contrecollés, on peut monter, qui est du bois massif, on peut monter sans problème sur une quinzaine d'étages. Une cinquantaine de mètres.
C'est facile après de faire fonctionner cette tour ou
pas ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de... la résistance, il faut savoir que le bois supporte une pression au-dessus qui est aussi forte que le béton. En revanche, c'est 5 à 6 fois plus léger. Donc, quand vous montez des étages en bois, vous avez une résistance qui est tout à fait excellente.
On peut même dire que cet élément-là, qui est très important, permet par exemple de reconquérir du foncier sur des voies ferrées.
Bien sûr.
Ou du coup,
immeuble
léger.
Et de surélévation.
Faire des surélévations. Faire du surélévation également. Nous avons gagné le concours dans Inventons la métropole, porte de Brancion, où nous allons réaliser, deux immeubles en couverture du périphérique.
Oui, toujours.
Voilà. Donc,
j'ai vu les
notre siège lui-même est une, surélévation. Mais moi, je voudrais, sur un sujet très important en matière de tours, c'est qu'il y a aussi la restructuration des tours existantes. Nous avons le plaisir d'accompagner les investisseurs de la tour Montparnasse, qui est quand même la tour emblématique parisienne, qui fait effectivement 200 mètres de hauteur.
Vieillissant.
Pour faire qu'il y ait une tour effectivement vieillissante et pour lequel il est prévu un projet de permis de construire qui va permettre de restructurer complètement cette tour tout en gardant les matériaux, tout en gardant la structure de base, changer complètement la façade, épaissir aux étages bas la tour par la création de patios intérieurs, et à l'intérieur, bien sûr, repenser, recomposer la tour.
Et comment le bois intervient justement dans
là, c'est pas en bois,
ça sera
du bas carbone. Hein,
d'accord,
en fait,
du bas carbone.
Donc ça veut dire qu'on garde, on conserve son nombre de matériaux parce qu'on se rend compte qu'en termes d'émissions de carbone, quand on démolit et qu'on reconstruit, on émet du carbone, et que donc il est tout à fait intéressant de garder un certain nombre d'éléments, de prestations existantes qu'on n'a aucune raison objective de détruire. Ensuite, il faut savoir que ces tours anciennes ont une consommation complètement délirante, puisqu'une tour ancienne monte jusqu'à 700 kWh
la moyenne du parc
par mètre carré.
Alors,
700 kWh. Alors
donnez-moi un ordre d'idée par rapport
C'est 10%.
Si vous voulez constituer
70 kWh.
Alors, Eric,
la moyenne du parc francilien, c'est 480 kWh par mètre carré par an dans le tertiaire.
Oui.
Quand on est à énergie positive, on arrive à avoir des consommations qu'on arrive à faire chuter à entre 36 et 40 kWh. Et quand on est dans le délire total, on est sur le doublement de cette valeur, donc sur les 700.
Le plan climat, de la ville de Paris a fixé une consommation de 60 kWh au mètre carré. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Hein. Donc, vous voyez qu'on a.
Et comment on y arrive?
Il y a du chemin à faire. Alors, hein,
comment on y arrive justement à ces 60 kilos au mètre carré? Eric Mazoyer.
Alors, moi, je voudrais juste
Par quel procédé justement? Qu'est-ce qu'on met dans les tours? Quel procédé?
Déjà, il y a tous les procédés d'enveloppe, bien entendu. Hein, si on veut faire de ces tours des objets performants en termes de consommation énergétique.
Les modes de chauffage.
Les enveloppes sont très importantes. Les modes de chauffage, alors de chaudière à cogénération et de production. Et puis, il faut accompagner ça, bien entendu, de production et d'autoconsommation de la production de ces tours. Mais ça, il me semble, c'est pas le sujet de fond. Il y a un sujet qui à mon avis est complémentaire à ce que disait Philippe, qui est un sujet important, c'est que je pense que pour notre profession, l'avenir de la construction des tours, donc qui seront très très mixtes, hein, on le dit, avec des parties hôtelières, des parties bureaux, des parties logements, c'est aussi d'être capable de générer ce qu'on peut appeler de la réversibilité de fonction. C'est-à-dire, on voit que le métier de la façon de travailler des nouvelles générations n'est pas la même que nous. On voit que les besoins en termes de bureaux sont pas les mêmes. Il y a des besoins de co-living qui sont en train de s'exprimer.
Oui.
Et donc, faut qu'on soit raisonnable et qu'on soit capable de concevoir des tours qui vont évoluer dans leur mixité sans générer d'énormes travaux d'infrastructure ou d'énormes travaux de remise en...
Et vous savez, l'exercice est pas simple parce que il y a un grand débat depuis, de tous les promoteurs et les architectes depuis très très longtemps, qui est de dire que la trame de logement ne correspond pas à la trame de bureau. En d'autres termes, les bureaux idylliques non IGH ont 18 mètres de profondeur, ou pendant longtemps 12 mètres et ensuite 18 mètres, et les immeubles de logement idylliques ont 13,50 mètres à 15 mètres. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans une tour, vous avez pour les bureaux aujourd'hui des tailles de plateaux idéaux qui sont entre 1500 et 2000 mètres carrés, et en logement, la taille idéale d'une tour de logement, c'est de l'ordre de 500 à 600 mètres carrés.
Ah oui, c'est pas pareil.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la même histoire. Ça veut dire qu'il faut concevoir une tour, si on veut faire une tour mixte, avec des patios intérieurs pour éclairer, sinon on a des appartements qui sont horriblement profonds, très très grands, et qui sont incompatibles avec une gestion efficace de la partie bureau.
Alors Henri Buzicazo,
c'est aussi vrai sur la hauteur, hein.
Absolument.
La hauteur n'est pas la même.
Les tours, le phénomène des tours qui va en effet croissant aujourd'hui dans nos villes montre l'exemple sur deux sujets. Le premier, c'est la surélévation. Je reviens sur ce que disait rapidement Philippe. Aujourd'hui, il y a une tendance à surélever les immeubles parisiens, bordelais, enfin des grandes villes, parce qu'on a besoin de loger davantage de monde et que c'est faisable et que c'est techniquement faisable, on le sait, c'est économiquement viable, mais il y a une résistance culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tours viennent faire une didactique en quelque sorte. Et on va d'autant plus aisément surélever avec le bois en particulier, qui est une technique très très employée pour surélever des immeubles qui aujourd'hui font 3, 4, 5 étages. On va monter, voilà. Ça va déclencher les choses. Et deuxièmement, il y a une autre exemplarité des tours. C'est même surprenant parce que ça aurait pu venir autrement. Il y a un vivre ensemble dans ces tours qui est très surprenant. Alors c'est le mélange des fonctions qui crée ça, mais même sur des tours qui ne sont que résidentielles, ce sont des espaces de vie. Ce sont des villes dans la ville. Et aujourd'hui, la demande des habitants, c'est ça, c'est d'avoir une vie de proximité là où on ne se parlait pas. Dans un immeuble, même haussmannien, parce que c'est la vérité, il y a une espèce d'anonymat. On voit bien que ça a évolué, hein, la fête des voisins, c'est aussi ça. Dans les tours, on voit aujourd'hui une vie se créer. Et c'est très singulier de voir ça.
Et on verra justement dans un instant eh bien ce qu'on y mettra dans ces tours, à quoi vont ressembler les bureaux dans les tours, les logements, les services. Finalement, c'est là où vous allez travailler, où vous allez vivre. Hein. On va se retrouver dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on se pose cette question, les tours ont-elles de l'avenir dans les villes, hein? Alors, sans évidemment tout vouloir réduire à Paris, région parisienne, bien sûr c'est un phénomène aussi qu'on voit se développer dans les grandes métropoles françaises, mais c'est vrai qu'à Paris, pour qu'on vous en parle ce soir, c'est parce qu'il y a eu un vote très important du Conseil de Paris cette semaine, qui n'a pas été aisé hein, pour la majorité municipale, pour Madame Hidalgo, mais finalement elle y est arrivée, notamment grâce aux élus de La République En Marche, hein. C'est cette ZAC Bercy-Charenton, hein, à l'horizon 2030, 6 tours, un gratte-ciel, mais tout ça dans un contexte de mixité, quand je parle de mixité avec du commerce, du logement, de l'hôtellerie, des magasins bien sûr, des bureaux, des commerces, un jardin de 2 hectares. Oui, c'est vrai, ces tours qu'on voit fleurir maintenant, qu'on voit grossir dans nos villes, hein, et avec lesquelles il va falloir probablement s'habituer, en tout cas redécouvrir. Qu'est-ce qu'on met dedans, justement? Tiens, Martin Piau, vous qui travaillez sur tout le secteur tertiaire à l'agence W que vous dirigez, dont vous êtes le directeur général, à quoi ça doit ressembler une tour? Qu'est-ce qu'on met dedans? Que ça soit une tour de bureau ou une tour de logement? Et puis, si possible, hein, ben, quand on fait les deux en même temps.
On l'a dit juste précédemment, mais la mixité est un enjeu extrêmement fort. Avant, on mettait 9000 gens travaillant dans une tour ou 4000 personnes vivant dans un immeuble, dans une grande tour. Aujourd'hui, on cherche à faire en sorte qu'il y ait des mouvements qui s'opèrent, des flux, des interactions entre du commerce, du logement, du bureau et toutes les activités. Faire en fait des lieux de vie. Et ça suppose quoi? Ça suppose que, en fait, qu'on soit dans du résidentiel ou dans du tertiaire, aujourd'hui, il y a un nombre de services croissants qui vont se développer. Alors, dans le résidentiel, ça va être des jardins potagers, ça va être des prêts de voitures, ça va être évidemment de la conciergerie. Dans le tertiaire, on va avoir aussi beaucoup de services qui vont se développer et qui vont faire que ces tours vont être de plus en plus agréables à vivre. Et les clients de ces tours, hein, les habitants de ces tours vont de plus en plus réclamer d'y vivre, d'y résider, parce qu'on aura mis beaucoup de soins à répondre à leurs attentes et à faire en sorte que tout ce qui peut être des irritants, tout ce qui peut être en fait peut amener une relation un peu inhumaine vont être ramenés à quelque chose de plus agréable.
Mais, juste pour les bureaux, est-ce que dans une tour finalement construire la taille des plateaux dans une tour, c'est quoi? C'est 2500 mètres carrés.
L'idéal, c'est 2000 mètres carrés.
Minimum. 2000 mètres carrés. Bon, 2000 mètres carrés, c'est pas plus de 120, 150 personnes par étage.
Les entreprises. Sauf à ce qu'on fasse du coworking. On a le bon exemple. On a implanté sur 8 niveaux.
Alors, allez-y.
Dans Cœur Défense, Nextdoor.
Oui.
Ben, c'est un bon exemple de mixité aussi et de fonctionnement parce que les bureaux se vident dans Cœur Défense le week-end.
Oui.
Mais Nextdoor, notre centre de coworking, il fonctionne 24/24/7/7.
Bien.
Et donc, ça crée une animation, une sécurité du quartier.
Et ça résout.
C'est un bon exemple.
Parce que les entreprises, est-ce qu'elles n'ont pas besoin parfois que les services communiquent entre eux régulièrement, s'ils sont au même étage, c'est plus facile. Eric Mazoyer, vous le patron de Bouygues Immobilier.
Alors sur 2000 mètres, on met effectivement entre 150 et 200 personnes. Ouais. Et quand on est en coworking, on a beaucoup plus que ça parce qu'on a des. En fait, on réduit les espaces de travail individuels et on augmente beaucoup les zones de rencontre et les zones les lounges et les zones de partage.
C'est fini donc les open space. Martin Pio, vous travaillez sur le sujet.
Il y a un élément qui est rigolo, c'est que en fait aujourd'hui les entreprises recherchent des plateaux qui vont faire plus de 2300 mètres carrés souvent parce qu'elles veulent favoriser le coworking de leurs collaborateurs et le travail collaboratif. Et souvent ces tours ont ce défaut de pas pouvoir donc on les appelle souvent des campus verticaux. On essaie de transformer positivement cette notion en travaillant parfaitement bien tout ce qui est liaison verticale, la façon dont les gens vont pouvoir très facilement emprunter les escaliers.
C'est intéressant ce que vous dites parce que de campus verticaux parce que il y a peut-être une alternative autour. Est-ce que c'est pas le campus, j'allais dire, horizontal à l'image des grands campus universitaires, hein, Google par exemple avec son Googleplex donc inspiré de Stanford. Est-ce que le campus finalement ne se prête pas mieux à des activités de recherche, donner à la fois la parole aux fonctions administratives, financières également, de pouvoir moduler quelque part les surfaces. Philippe Zikovic.
Oui, c'est une approche très différente. Nous avons donc un projet pour lequel nous avons obtenu le permis de construire définitif aujourd'hui à Nanterre qui s'appelle l'Arboretum, qui correspond à 125 000 mètres carrés de campus qui sera le plus grand campus fait en bois.
Au-dessus de Nanterre,
jamais réalisé,
Robert, hein, c'est ça.
Voilà, juste à côté de Nanterre Université, donc près de l'université, au bord du parc départemental, au bord de la Seine. Mmh. Et là, on est dans une image complètement effectivement différente, puisque ce sont des immeubles qui sont par nature des immeubles non IGH, avec un parti pris d'avoir des immeubles et des bâtiments très ouverts sur l'extérieur, puisque nous avons, avec 126 000 mètres carrés, nous avons plus de 12 000 mètres carrés de terrasses et de balcons, et surtout un parc propre au campus de 6 hectares. Donc là, on a à la fois des lieux de rencontre pour, comme disaient mes amis, pour le coworking, pour le fixing desk, des lieux de rencontre pour échanger, des lieux de travail et surtout un nombre de services à la fois de sport, de restauration, qui est absolument très élevé.
Et ça, on peut pas le faire. Mais dans Paris intramuros, dans Bordeaux intramuros, dans Lyon, il faut quand même une certaine ampleur, une certaine surface.
Mais l'inverse est vrai.
Oui.
Parce que quand vous regardez la Défense, il y a à peu près 5 millions de mètres carrés entre la Poire et ce qui est autour. C'est essentiellement quand même des grandes sociétés internationales, mais ces sociétés, elles vivent dans des écosystèmes avec des tonnes de PME, de start-up,
ouais,
qui, elles, ne peuvent pas avoir accès à la Défense. Et la Défense a fait un énorme effort aujourd'hui pour rapprocher tout cet écosystème des petites entreprises et des start-up, pour les rapprocher des grands comptes, parce qu'on voit que ces sociétés, ces grandes sociétés, pour se développer, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, elles ont besoin de se sourcer de sociétés plus agiles, plus petites qu'elles. C'est le sens de l'intégration du coworking aussi à l'intérieur de grands parcs tertiaires.
Henri Buzy-Cazot à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers.
Alors justement, je réagis puisque je suis patron d'école au mot « campus ». Il faut se demander pourquoi les écoles, les grandes écoles de management, par exemple, ont d'ailleurs pour la plupart quitté le cœur des villes, très clairement, c'est vrai à Paris, c'est vrai ailleurs, et ont fait des campus qui sont le fruit d'un étalement, voilà, et on n'imagine pas autre chose. C'est une erreur. Les jeunes étudiants aujourd'hui, ils ont un mode de fonctionnement qui est extrêmement souple. Pourquoi on en arrive à des réponses comme coworking? Parce qu'il y a une demande. C'est pas l'immobilier qui a dicté sa loi aux êtres. C'est l'inverse. Et aujourd'hui, quand on fait une tour, on peut très bien imaginer qu'une école des écoles, soit dans une tour, parce que de toute façon, il y aura ces circulations. Il y aura ces circulations, il ne faut pas imaginer que l'empilement des plateaux va empêcher les jeunes qui vont rester là. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a même un nouveau modèle économique pour les grandes écoles qui peuvent revenir en cœur de ville et réanimer des villes, très clairement.
Et clairement, une tour, ça peut être un vecteur d'image, de recrutement pour les jeunes, justement. On parle toujours donc, de ces aménagements dans les start-up, des open space façon start-up, avec, bon, j'exagère, la table de ping-pong, la banquette, etc. On se repose, etc. Bon, franchement, pour un jeune, aller travailler dans une tour, c'est bien.
Oui, parce que la tour, on le voit pour celle qui existe avec cette mixité fonctionnelle, résidentielle, tertiaire, service, est un lieu souple. On l'imagine comme un lieu étonnamment figé où voilà, les gens entrent dans une case à un moment donné, puis ils n'en sortent pas, c'est leur logement, c'est leur bureau, c'est plus tout ça. Les espaces s'ouvrent, il y a des espaces de partage, c'est exactement ça, pour le travail, ou des espaces de services communs. Là aussi, le modèle économique permet d'installer ces services communs. Donc c'est un lieu d'agilité et de souplesse, et pas l'inverse.
Martin Piau, W.
Peut-être que la question, c'est la géographie. En fait, c'est pour ça qu'il faut construire des tours intramuros, voilà, dans les grandes capitales. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce que ne veulent pas les millennials, les jeunes
c'est
aujourd'hui,
aller en banlieue, par exemple.
C'est de faire 45 minutes de RER aller bosser.
Il y a une nouvelle topographie, donc, oui, qui va se créer, qui va se dessiner.
J'espère. Moi, je lisais une étude récente qui montrait que dans des quartiers comme Canary Wharf à Londres. L'implantation d'une tour a un effet bénéfique sur l'ensemble du quartier, d'un point de vue économique.
C'est ça. Quel lien créer entre les tours et les villes, quand même. Voilà, justement, un exemple. Qu'est-ce qui se passe à Canary Wharf?
Un exemple concret, il disait que le coût du foncier autour avait grimpé extrêmement rapidement, et puis il y a beaucoup de projets qui se sont développés qui ont rendu l'ensemble du territoire extrêmement tonique, alors que c'était un espace qui était pas très avec un développement extrêmement faible. Donc on voit que la tour, elle a un impact aussi économique immédiat, très direct sur son environnement.
Henri Buzicazo.
Oui, puis il faut parler des créations d'emplois, hein, c'est aussi un attrait de ces tours, parce qu'il y a une complexité de ces immeubles. Même si Eric ou Philippe en parlent en des termes très simples, il y a une vraie complexité pour les bâtir d'une part, mais ensuite pour qu'elles vivent et pour les gérer. Et c'est certain que la sécurité technique, les ascenseurs par exemple, crée l'obligation de personnel qui vont veiller sur le bon fonctionnement de ces tours. L'administration de ces tours, la gestion obéit à des règles très particulières, il faut des compétences spécifiques. Et ces tours sont des villes, d'authentiques villes à administrer, à gérer, à sécuriser. Donc il y a des emplois aussi qui se créent liés à la complexité de ces immeubles.
Tiens, un mot justement sur les ascenseurs, quand même, parce que c'est juste la pièce maîtresse d'une tour. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de nouveau en matière d'ascenseur dans une tour, qu'elle soit de 15...
La transparence.
Bah déjà, dans une tour, on est capable, dans une même gaine, voilà, de mettre plusieurs ascenseurs qui fonctionnent ensemble et qui sont bien entendu pilotés par un ordinateur.
Attendez,
au lieu d'avoir un ascenseur qui part du rez-de-chaussée et qui monte sur 60 étages, vous avez deux ascenseurs à l'intérieur de la tour. D'accord. Qui eux-mêmes se déplacent et sont sécurisés et se déplacent en fonction de la demande. Donc vous augmentez dans une même gaine, le trafic et la possibilité de vous déplacer à l'intérieur de la tour.
Le numérique aussi permet de faire de l'ascenseur un lieu d'information, d'échange pour les habitants, pour les utilisateurs, si ce sont des tours tertiaires. L'ascenseur aujourd'hui, il peut être translucide. On voit bien que les tours sont aujourd'hui associées à la transparence et pas l'inverse, jusque dans les ascenseurs, avec la visibilité du mouvement. Et ça rejoint ce que j'évoquais, c'est tout sauf un lieu figé. Le digital permet de faire de ces ascenseurs des lieux d'intelligence et de partage.
Et des ascenseurs qui fonctionnent, et un petit clin d'œil justement à la gagnante de la BFM Academy, c'est Jade Francine, avec sa boîte We Maintain. Voilà, on en parle souvent sur BFM Business. Juste la physionomie des villes, je voudrais qu'on y revienne justement. On a peut-être des a priori, des préjugés sur la densification des villes. C'est Guillaume Sommerer, vous savez, intégral placement tous les matins, que j'adore évidemment, qui me murmurait dans l'oreille, il me disait, voilà, Paris est la capitale européenne, de loin, la plus dense. Mmh, elle est aussi dense que Bombay ou Calcutta, deux fois plus dense aussi que New York, pourtant plus verticale et plus grande. Alors oui, allez-y,
C'est Haussmann. Ouais. Haussmann a densifié énormément sans monter très haut. Et donc du coup, on a ce paysage de skyline où on a tous les immeubles à la même hauteur. C'est quand même absolument génial et créatif d'avoir un skyline qui est comme
des orgues.
Absolument. Je voudrais juste dire un point qui me paraît.
Allez-y, Philippe Zitkovic,
qui me paraît tout à fait important. Ne nous leurrons pas. Construire une tour coûte plus cher que de construire un immeuble non IGH. Mmh. Puisque, grosso modo, le coût de construction d'une tour, c'est de l'ordre de 3 500 € du mètre carré. Quand on construit un immeuble...
Versus 2 000 €.
Donc, ça veut dire que ça coûte quasiment le double. Ça veut dire qu'on peut pas en faire où on veut, où on souhaiterait, puisqu'il y a une réalité économique qui nécessite d'avoir des loyers, des prix de vente qui sont suffisamment abordables.
Ça me permet peut-être d'enchaîner, et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Philippe, qui est un grand professionnel. Je pense que les tours isolées et qui n'ont pas de desserte de transport en commun en région ou sur un certain nombre de sites, je pense que c'est un non-sens. Ouais. À l'inverse, une tour extrêmement bien desservie par des transports en commun, accessible et qui a été conçue dans un écoquartier et qui est très ouvert sur l'écoquartier, avec notamment un pied d'immeuble, avec du commerce, avec tout un écosystème immobilier qui fonctionne autour, ça marche très bien. En gros, on peut se dire qu'en général, une tour isolée, de façon générale, c'est pas excellent.
Donc, l'avenir des tours, les tours, elles ont de l'avenir en ville si elles ne sont pas ghettoisées, si elles s'intègrent bien dans un périmètre urbain. Martin Pio, W.
Mais si elles sont belles aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais les plus grands architectes, les Pritzker, les architectes,
c'est le prix Nobel de l'architecture.
Affichent des tours comme des trophées ou des icônes de leur travail.
Jean Nouvel pour les futurs tours du haut.
C'est génial. Là-dessus, peut-être on partage pas tous.
Éric Mazoyer.
Moi, j'étais à New York l'autre jour, je suis fasciné par Mies van der Rohe, sa première tour qu'il a faite, qui est d'une simplicité et d'un minimalisme. On a l'impression que cette tour a été construite il y a 5 ans et elle date de 1958 ou de 1960. C'est incroyable.
Et vous avez
donc moi je dis juste, il faut pas non plus que la tour devienne l'espèce de concours de folie des architectes. On sait déjà que ça coûte très très cher. Je pense qu'il faut rester raisonnable. La tour, elle doit répondre à des usages. Elle n'est pas juste une sculpture urbaine qui est le fruit d'un délire d'architecte. Oui, ça veut pas dire qu'on sait pas faire des tours simples et belles, hein.
Martin.
Non, enfin moi je suis aussi un fan absolu de Mies van der Rohe et de ce type d'architecture et même d'une certaine forme de brutalisme dans l'architecture. Néanmoins, il y a des choses extraordinaires qui se font aujourd'hui et je pense notamment à quelqu'un dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, c'est Yam Song Ma, qui est un designer chinois qui a dessiné un hôtel en Chine qui a une forme d'un anneau qui fait plus de 110 mètres de hauteur, donc c'est un building et qui a une forme d'anneau et qui a un monument absolument magnifique. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est formidable, au-delà de tous les aspects technologiques qu'on a évoqués, c'est que la 3D permet de développer des bâtiments qui ressemblent à ce qu'on voit derrière, qui sont assez extraordinaires et qui vont changer la physionomie de nos villes, et c'est bien. Et
physionomie de nos villes, avec des villes qui vont se densifier de plus en plus d'habitants grâce aux tours, justement, Henri Buzicazo.
Oui, puis je crois que la tour, elle peut avoir aussi une fonction de délimitation douce.
Nos villes ont des frontières, quoi, quelque part.
Voilà, des portes, et c'est comme ça que s'est créée la banlieue, hein, étymologiquement, c'est ça. Voilà. Et là, on a une façon d'identifier la ville par rapport à ce qui est derrière la ville, après la ville, mais beaucoup plus intelligente et plus agréable.
La tour n'est pas synonyme de bétonisation, comme certains, parfois, le brandissent. C'est l'inverse.
Très clairement.
Donc, voilà, les tours ont de l'avenir en ville, vous dites tout.
Oui.
Voilà, très bien. Merci à tous. Merci Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Martin Pio, directeur général de l'agence de design et de marque W. Et Philippe Zitkovic, co-président de Woodeum, fabrique des tours, des campus, des immeubles de bureaux en bois. C'est beau. Merci, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.